Chapitre 2. Le Saint-Esprit met la chair de côté et instruit dans la pensée de Christ. Au chapitre 1, l'apôtre a montré que Christ crucifié, la prédication de la croix et l'appel de Dieu mettent la chair entièrement de côté, ne laissant aucune place à l'homme pour se glorifier de lui-même. Dans ce chapitre 2, l'apôtre applique cet enseignement du chapitre 1 à lui-même et à sa manière de présenter le témoignage de Dieu. En accord avec son propre enseignement, il refusait la chair en lui-même afin d'être fidèle à la croix et afin que rien n'entrave le travail de l'Esprit. Dans les versets 1 à 5, l'apôtre nous dit comment il a prêché l'Évangile aux pécheurs. La dernière partie du chapitre nous dit comment il a communiqué les choses profondes de Dieu aux saints. Dans les deux cas, c'était dans la puissance de l'Esprit. Cela conduit l'apôtre à présenter le Saint-Esprit qui, dans son œuvre de grâce, met la chair entièrement de côté et nous instruit dans la pensée de Christ. Versets 1 à 5. Prédication de l'Évangile. Versets 1 et 2. La croix met tout à néant. Citation de l'Écriture. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Fin de citation. Quand Paul vint à Corinthe, il ne fit pas appel à l'homme naturel en essayant de faire des discours excellents ou en déployant une sagesse humaine. Verset 1. Il était venu annoncer le témoignage de Dieu concernant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le grand sujet de sa prédication était une personne, Jésus-Christ, mais cette personne sur une croix, la position la plus basse et la plus dégradée où un homme puisse se trouver. Verset 2. Paul dit à ses Corinthiens intellectuels que Christ avait dû aller à la croix pour que des pécheurs soient sauvés. Pour donner aux croyants la même place que lui devant Dieu, il a dû prendre leur place devant Dieu. La croix met à nu la place que nous méritons devant Dieu comme pécheurs. Il n'y a rien de digne ou d'héroïque ou de noble sur une croix. C'est un lieu de honte et d'opprobre, de jugement et de mort. Dire à quelqu'un que c'est sa vraie place devant Dieu met absolument à néant sa sagesse et son importance et sa grandeur. Quelque sage, riche et bien-né que soit un homme, la croix lui dit qu'en dépit de tout ce qu'il peut être devant ses semblables, aux yeux de Dieu, il n'est qu'un pécheur coupable, sous sentence de mort et de jugement. La prédication de la croix met ainsi à néant l'orgueil de tous les hommes. Verset 3. Condition du prédicateur. Citation de l'Écriture. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Fin de citation. En outre, le prédicateur lui-même était parmi eux dans une condition humiliante pour l'orgueil de l'homme. Il n'était pas venu en orateur plein de confiance en lui-même. Conscient de sa propre faiblesse, comprenant le profond besoin de ceux auxquels il prêchait, et la solennité de son message, il était parmi eux dans la crainte et dans un grand tremblement. Versets 4 et 5. Manière de prêcher. Citation de l'Écriture. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fin de citation. De plus, dans sa manière de prêcher, il refusait toute méthode charnelle afin de laisser à Dieu la place pour agir. Il ne cherchait pas à gagner son auditoire par un déploiement de sa sagesse ou de ses capacités naturelles. Il n'exposait pas le témoignage de Dieu avec éloquence, ce qui aurait plu à leurs oreilles raffinées et aurait attiré à lui. Verset 4. Dans le sujet prêché, autant que dans la condition du prédicateur, et dans la manière de prêcher, l'apôtre ne tolérait rien de la chair, ni ne faisait aucun appel à elle chez ses auditeurs. Ce refus total d'utiliser des moyens charnels ou de faire appel à la chair laissait la place à l'esprit pour travailler avec une grande puissance. Verset 4. Si la foi est jointe à ce genre de prédication, si on croit en ce qui est tellement humiliant pour l'homme et qui met fin à l'homme dans le jugement, alors ce qui conduit à croire n'est évidemment pas la sagesse de l'homme, mais la puissance opérante de l'Esprit de Dieu. Dans ce genre de prédication, l'Esprit est en mesure de démontrer aux pécheurs leurs profonds besoins et d'agir avec une puissance sans entrave, et il conduit à une foi qui ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 5. Il ne s'agit pas seulement de la vérité qu'ils ont crue, mais de la manière dont ils l'ont reçue. Elle n'a pas été reçue d'un homme, même si cet homme était un apôtre, mais de Dieu. Versets 2 à 16. Communication des choses profondes de Dieu aux saints. Verset 6. Citation de l'Écriture. Or nous parlons sagesse parmi les parfaits. Sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont. Fin de citation. À partir de ce verset 6, l'apôtre se met à parler de l'attitude qu'il a prise envers ceux qui étaient les objets de la puissance de Dieu et qui avaient donc accepté l'Évangile. Il parle d'eux comme les parfaits. Par ce terme, il n'entend pas ce que des gens ont appelé la perfection sans péché. Il ne prétend pas non plus qu'ils étaient déjà conformes à l'image de Christ, ce qui ne sera que dans la gloire. Le terme « parfait » implique que ces croyants avaient accepté la nouvelle position devant Dieu qui appartient aux croyants en Christ et qu'ils étaient donc des chrétiens adultes. Le terme ne désigne pas un croyant en contraste avec un pécheur, il est plutôt utilisé pour décrire un croyant adulte, ayant achevé sa croissance, à la différence de certains croyants restés des petits-enfants selon le langage de l'apôtre. Chapitre 3, verset 1. Verset 7. Citation de l'Écriture. Mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. Fin de citation. Parmi de tels croyants, les parfaits, effectivement, l'apôtre parlait sagesse. L'apôtre se met alors à donner des indications très précises sur cette sagesse afin de ne pas la confondre avec la sagesse de l'homme. Premièrement, il nous dit d'abord que ce n'est pas la sagesse de ce siècle, ni de celle de quelques géants intellectuels façonnant les pensées du monde. Ces chefs intellectuels, malgré toute leur sagesse, s'en vont, c'est-à-dire sont réduits à néant, en contraste avec le croyant qui va vers la gloire, en compagnie du Seigneur de gloire. Verset 8. Ceux qui brillent dans la gloire de ce monde vont vers le néant, tandis que ceux qui ne sont rien dans ce monde vont vers la gloire. Deuxièmement, cette sagesse est la sagesse de Dieu. Si elle était la sagesse des hommes, on pourrait l'acquérir dans les écoles des hommes. Étant la sagesse de Dieu, elle est hors programme dans les écoles et hors d'atteinte de la pensée humaine. Troisièmement, elle est la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée. Ces mots n'impliquent pas du tout qu'elle soit obscure ou mystérieuse, mais que c'est une sagesse qui ne peut être découverte par l'intelligence humaine. En outre, à travers les âges, elle a été cachée, et on ne la trouve donc pas dans les Écritures de l'Ancien Testament. Quatrièmement, cette sagesse qui a été cachée à travers les âges, ou siècles, était préordonnée ou prédéterminée avant les siècles pour notre gloire dans les siècles à venir. Cette sagesse embrassait le conseil secret de Dieu, établi avant les siècles pour la gloire de son peuple. Nous aurions pu penser que l'apôtre aurait dit « pour la gloire de Dieu et de Christ » au lieu de « pour notre gloire ». Nous savons en effet que ce sera pour la gloire de Christ. Ici, cependant, l'apôtre insiste sur le fait que, si notre appel rend manifeste que les croyants sont faibles et méprisés dans le monde, ils sont néanmoins prédestinés à la gloire. nous pouvons ne pas être sages, puissants ou nobles dans ce monde, mais nous sommes appelés à la gloire. Verset 8. Citation de l'Écriture. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Fin de citation. Cinquièmement, les chefs de ce monde ne savaient rien de cette sagesse préordonnée ou établie avant les siècles, ni de cette gloire à laquelle nous sommes prédestinés pour les siècles encore à venir. Ils ont prouvé leur ignorance en crucifiant le Seigneur de gloire. Ils ont totalement rejeté celui qui est la sagesse de Dieu et par qui tous les conseils de Dieu doivent s'accomplir. Cette sagesse de Dieu, en mystère, dit aux croyants qu'ils sont prédestinés à la gloire et que celui qui a été crucifié est le Seigneur de gloire. Cette gloire dépasse la gloire de Christ comme Messie régnant sur la terre en rapport avec Israël. Le règne terrestre n'est pas un mystère. Les prophètes sont pleins de prédictions glorieuses concernant les gloires du royaume. Le titre « Le Seigneur de gloire » parle d'une scène plus vaste que cette terre. Il parle d'une domination universelle embrassant toutes les créatures et toutes les choses créées sur lesquelles le crucifié est fait Seigneur. Verset 9. Citation de l'Écriture. Mais, selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Fin de citation. Sixièmement, cette scène de gloire à laquelle la sagesse de Dieu a destiné son peuple se trouve hors de portée de l'homme naturel. L'apôtre cite ainsi le prophète Ésaïe pour montrer que Dieu a des secrets dans lesquels l'homme ne peut pas entrer comme tel. Son œil, aidé par de merveilleux instruments, peut voir très loin dans l'immensité de l'espace et dans le merveilleux infiniment petit de la nature. Son oreille peut être entraînée à écouter et apprécier de merveilleuses harmonies mélodieuses. Son esprit est capable de conceptions et d'émotions extraordinaires. Mais il y a ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime et que l'homme naturel n'a ni vu ni entendu et qui est au-delà de la portée des plus hauts vols de son imagination. Verset 10. Citation de l'Écriture. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Fin de citation. Septièmement, le fait que la sagesse de Dieu se situe hors de la compréhension de l'homme naturel ne signifie pas que les choses de la sagesse ne peuvent pas être vues, entendues ou connues, car l'apôtre s'empresse de dire que Dieu nous les a révélées. Dieu nous l'a révélé. Les choses que Dieu a préparées, Dieu les a révélées. Cependant, si Dieu a révélé ces choses, c'est par son esprit. L'esprit seul est compétent pour révéler ces choses, car rien n'est hors de portée de la connaissance divine et de la puissance de l'esprit. Ils sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Nous pouvons chercher à excuser notre manque d'énergie spirituelle en disant que ces choses sont trop profondes pour nous. Mais rappelons-nous qu'elles ne sont pas trop profondes pour l'esprit, car ils sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Verset 11. Citation de l'Écriture. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Fin de citation. Ce qui est dans l'esprit de l'homme n'est connu de personne, si ce n'est de l'esprit de celui qui a les pensées en question. Personne ne connaît la pensée non communiquée de mon esprit, si ce n'est mon propre esprit. Ainsi, personne ne connaît les pensées et les conseils non communiqués de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Citation de l'Écriture. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Fin de citation. l'apôtre et d'autres vases, ou réceptacles, de révélation, ont reçu l'Esprit qui est de Dieu, afin qu'ils puissent connaître les choses qui nous sont gratuitement données de Dieu. Cela nous présente la connaissance des choses elles-mêmes dans les vases de révélation. Pensée de J.N. Darby. Dans le sens premier, la vérité de ces versets 10 à 12 est limitée aux apôtres, car il s'agit de révélation. Verset 13. Citation de l'Écriture. Desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Fin de citation. En outre, les choses qui ont été données à connaître aux apôtres par la révélation de l'Esprit nous ont été transmises par l'inspiration de l'Esprit. Dans la communication de ces choses, l'apôtre prend soin d'exclure toute erreur éventuelle de l'homme en disant que ces choses ne sont pas communiquées en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit. C'est la revendication apostolique pour l'inspiration verbale. Les mots exacts utilisés sont inspirés par le Saint-Esprit. Les choses spirituelles sont communiquées par des moyens spirituels. Les instruments n'ont pas été rendus infaillibles, mais ont été parfaitement guidés dans leur communication. Voilà l'inspiration. Versets 14 et 15. Citation de l'Écriture. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Fin de citation. Nous avons appris ainsi que la sagesse de Dieu est donnée à connaître par révélation et est communiquée aux autres par inspiration. Maintenant, nous apprenons que la réception de la vérité est aussi par l'Esprit de Dieu. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Elles sont de la folie pour lui. Elles ne peuvent être discernées que spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Il est bon de se rappeler que c'est celui qui est spirituel qui discerne toutes choses, non pas simplement celui qui a l'esprit. Un homme doit en effet avoir l'esprit pour être spirituel, mais être spirituel implique une condition dans laquelle on est sous le contrôle de l'esprit. On discerne toutes choses sans cependant être discerné par quiconque. L'homme spirituel peut discerner les motifs qui gouvernent le monde, mais le monde ne peut pas discerner les motifs et les principes qui gouvernent l'homme spirituel. Au verset 14, l'apôtre parle de l'homme naturel, au verset 15, de l'homme spirituel, et en 1 Corinthiens 3, de l'homme charnel. L'homme naturel, c'est l'homme inconverti, sans l'esprit. L'homme charnel, c'est le croyant qui a l'esprit, mais qui marche comme l'homme naturel. L'homme spirituel, c'est le croyant qui marche par l'esprit. Verset 16. Rôle de l'esprit, la pensée de Christ. Citation de l'Écriture. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Fin de citation. Au début du verset 15, l'apôtre nous dit que celui qui est spirituel discerne toutes choses. Ce n'est pas en effet que celui qui est spirituel connaisse naturellement la pensée du Seigneur, ou puisse l'instruire, mais le Seigneur a donné son esprit aux croyants et les instruit, de telle sorte qu'ils peuvent dire « Nous avons la pensée de Christ ». Tandis que le chapitre 1 exclut la chair, qui s'énorgueillit de sa naissance, de sa puissance ou de sa position, de sorte que celui qui se glorifie dans le Seigneur, ce chapitre 2 exclut la pensée de l'homme, de sorte que les croyants peuvent accéder au privilège d'avoir la pensée de Christ par l'Esprit. L'Esprit est le grand sujet du chapitre 2. Si Paul apporte le témoignage de Dieu aux pécheurs, c'est en démonstration de l'Esprit et de puissance, verset 4. Si Dieu a préparé de grandes bénédictions pour ceux qu'il aime, elles sont révélées aux apôtres par l'Esprit. Verset 10. Les choses qui sont révélées par l'Esprit sont parfaitement connues de l'Esprit. Versets 10 et 11. Les choses révélées et connues des apôtres sont communiquées aux autres par l'Esprit par leurs moyens. Verset 13. Les choses communiquées par les apôtres sont reçues par l'Esprit. Verset 14. Le résultat étant que les croyants sont, par l'Esprit, instruits dans la pensée de Christ. Verset 16.